Sono Claudio Stassi et seguo sempre la voix de Le Bull.
Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui met son cul dans la bassine.
Et ben voilà.
Voilà, c'est fait.
Rika, si tu nous écoutes, c'était pour toi.
Rika, c'était pour toi. Voilà.
Spéciale dédicace à toi avec tes magnifiques bandes de siège. On adore les bandes de siège.
Ce propos de langage que Isaac, qui est encore présent avec nous, mais combien de temps va-t-on réussir à le garder ? Mon Dieu, mais c'est terrible. Et je suis aussi accompagné de Thio.
Hello.
Pour un podcast enregistré vachement à l'avance, parce que en théorie, quand vous entendrez cette émission, vous serez en train de vous remettre de votre fête de la musique où vous serez déchiré la tête. Et Thio, lui, sera en train de se remettre.
Il entendra.
D'une paternité.
Ou pas. Je te rappelle quand même que c'est le 26 juin, donc.
Ouais, ça sera tendance, ouais. Ça sera limite.
Ça peut arriver. Là, on a rencontré une vieille qui nous a dit, ouais, ça va arriver plus tôt. On a rencontré une autre qui a dit, tu vas dépasser le terme.
Oui, et.
Parce qu'en fait, toutes les vieilles, elles ont tout un truc, tu sais. Oui,
est-ce qu'il y en a une qui t'a regardé et qui a fait Oh mon dieu, non. Et qui est partie en courant en jetant d'une falaise.
Il n'y avait pas de falaise, c'est ça le souci en fait.
Non, parce que souvent, tu sais, quand t'as une vieille qui arrive sur les ventres dans les histoires.
Mais c'était un gars, il faut que tu demandes au TGV de Valence.
Ouais.
Eux, ils l'ont croisé, je crois.
Ok. Une émission donc très chargée et très lourde.
On est là.
Voilà, où nous allons vous faire des news avec Merton. Alors on sait pas du tout de quoi on va parler vu que on enregistrera les news genre dans un mois par rapport à l'émission. Donc un suspense.
Mais des news super intéressantes parce que Merton est au taquet.
Voilà. Notre express, on va parler de Ultimate Fallout et de Batman Showcase numéro 2. Dans les bacs, on vous parlera de Pour un peu de bonheur, de Lino Trésor, de Beauté tome 2, de La Marche du Crabe tome 2. En splash page, nous allons parler de Pour la vie, le très très joli bouquin de Goupil et Stassi.
Pour la vie, pas plus belle la vie. Hein.
Oui. En online, je vais vous parler d'un truc super sympa qui s'appelle le pavé numérique.
Exceptionnel.
Ça, c'est un petit peu vieux le pavé numérique. Hein. Depuis la création du clavier, c'est en place. Hein. Je suis désolé, Pierrick, là, t'es à la rue. Hein.
Et nous finirons avec, attention, un courrier des lecteurs.
Non, t'as retrouvé les codes pour aller sur iTunes?
Ouais, j'ai retrouvé comment installer un iTunes dans une machine virtuelle.
Comment les fans font pour envoyer par iTunes une petite culotte?
Je crois qu'on a eu un blanc là.
Ah ouais, là, c'est un blanc énorme.
Là, je crois qu'on a eu un blanc. On s'est regardé très connement pendant quelques secondes.
Merci Isaac.
Voilà, non, on ne coupera pas. Et on enverra le lien de l'émission à qui de droit. Donc, ben on commence tout de suite avec les news.
Jingle.
C'est les news.
Bonjour Merton.
Hello.
Comment vas-tu ?
Eh ben ça va bien. Et puis oui. Content d'être de retour.
Ça va, la canicule, la fête de la musique, tout ça,
non, ça s'est bien passé ? Pas de fête de la musique, moi en hommage à Jacques Lang, je reste chez moi. Il est tombé au combat, alors du coup, voilà, je fais rien.
Ah là là, je connais d'autres personnes tombées au combat, et on va commencer à parler des anniversaires.
Bah c'est ça, exactement.
On va commencer par l'anniversaire d'un nouveau venu qui va bientôt avoir des tonnes de BD à lire. Thio et papa, alors il ne le sait pas encore quand vous l'entendrez reparler dans la suite de l'émission tout à l'heure, grâce aux joies des enregistrements dans tous les sens. Et donc on est très content pour lui et on le félicite.
Voilà, plein de félicitations Thio.
Lui et à sa compagne.
La maman aussi, oui forcément.
Voilà. Et puis les autres anniversaires, c'est le comptoir de la BD.
Eh oui, ça y est, 1000 billets. 1000 billets, c'est quand même énorme. Non, mais...
Disons que 1000 billets et puis 1000 billets de qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul billet de remplissage. Ce n'est pas comme ces tonnes de blogs qui s'amusent à te le moindre communiqué de presse à te faire un copier-coller. Là, c'est 1000 billets où il dit des trucs, il analyse, il s'intéresse. Enfin, du boulot, quoi.
Il n'y a que du boulot de fond, et si vous ne connaissez pas encore le comptoir de la BD, c'est un gros problème, alors foncez dessus.
Si vous ne connaissez pas, vous allez écouter la superbe interview Sébastien Naeko qu'on a faite dans un de nos hors-séries.
Non, mais en tout cas, félicitations au monsieur, parce que c'est du très très bon boulot et une vraie référence.
Voilà. Re-anniversaire Comics Weekly, le podcast hebdomadaire de Comic City, a fêté son numéro 100. Ça s'est fait en live vendredi dernier. Ça s'est sans doute très bien passé, même si pour nous, c'est pas encore passé.
On ne sait pas trop, mais bon, il n'y a pas de raison.
Et c'est franchement vachement cool parce que moi j'adore ce qu'ils font. Ils sont très très pointus, hein. Faut vraiment bien aimer le comics. Je dirais que ils font pas vraiment des podcasts pour les gens qui débutent dans les comics et qui connaissent que dalle, hein. Mais franchement, si tu veux approfondir et avoir des news bien fraîches, ils sont au top pour ça.
Oh, et puis c'est une ambiance sympathique. Ou pouvoir se la péter en société. Genre, je connais tout sur les comics, hein, ça marche aussi.
Ça marche aussi. J'aime bien de temps en temps le faire. Genre, oh, je suis super bien en comics.
Voilà.
Et après, on parle de manga et je fais, hein, quoi? Ah. Oui.
Bah tiens, en parlant de manga, oui. Naruto.
Anniversaire.
Encore un anniversaire.
10 ans de parution en France.
10 ans de Naruto, quoi. Moi, je suis... j'ai jamais accroché à Naruto depuis le début.
Je n'ai jamais lu Naruto. Je ne sais vaguement de quoi ça parle. Mais en fait... donc c'est l'Express qui redonnait la nouvelle. Il faut savoir que Naruto, les 6 volumes qui ont été traduits cette année, donc on a un volume tous les 2 mois, ont été tirés chacun à 220 000 exemplaires.
Bah Naruto, de toute façon, c'est vraiment la tête de gondole, quoi. Ça pousse le manga vers le haut en France. C'est vraiment énorme.
C'est 30% des ventes globales de manga.
Ouais, non, mais. Et encore, hein, ça a monté à plus. Parce que là, maintenant, bon, il y a de plus en plus de mangas. Mais c'est quand même vraiment, vraiment énorme, quoi. Et je pensais pas que ça faisait déjà 10 ans. Là, je prends un coup de vieux, quoi.
En tout cas, bravo à Kana d'avoir eu le nez creux quand ils ont acheté les droits. Parce que je sais pas si c'était aussi populaire à l'époque. Mais en tout cas, j'espère qu'ils ont fait un bon deal. Tu sais, qu'ils ont négocié ça super pas cher en se disant c'est de la merde, votre manga.
Ouais, ça va passer.
Et au Japon, ils enchaînent. Ils ont encore d'autres news.
Bah ouais, parce que le Japon, c'est quand même donc le pays du manga, et puis là-bas, c'est un truc culturel assez assez énorme, et ils ont décidé de commencer à archiver tout le manga, absolument tout ce qui existe. Donc ce sera à peu près 300 000 références, aussi bien papier que vidéo, qui vont être archivées là-bas. C'est un peu du boulot, quoi.
Voilà, c'est l'actualité qui nous transmet cette info-là. Ouais. Par contre, moi, je suis surpris d'apprendre que c'est quelque chose qui n'était pas déjà fait. Faut croire que la culture façon bibliothèque nationale, c'est très français, en fait.
Bah oui, non, puis c'est surtout que le manga, c'est aussi des trucs, on les lit, on les jette, enfin, c'est un peu de...
Ouais, mais en France, à partir du moment où t'as un ISBN...
Ah non, mais nous, en France, dès que c'est un livre, c'est un livre, quoi. Enfin,
voilà, mais voilà, même des jeux de rôle sortis du néant, tu les trouves à la BNF, quoi.
C'est ça, mais là-bas, non, c'était plutôt un produit, d'ailleurs, on parle de l'industrie du manga, hein, c'est vraiment une industrie, c'était un produit vite acheté, vite lu, vite jeté.
Oui, mais ça, tu parles, c'est pour les magazines, ça, c'est... Après, une fois que t'as les albums reliés, ça reste un peu plus du livre, déjà.
Bah, un peu plus, ouais, mais c'est quand même... ça reste dans cette culture-là, je pense. Enfin, voilà, en tout cas, il l'avait jamais fait, mais j'imagine le mec qui va devoir ne serait-ce qu'archiver tous les Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc. Enfin, il y a du taf, quoi.
Surtout s'il fait bien le référencement.
Ouais.
Telle page, on voit Bulma. Enfin, des trucs de dingue.
Non,
le truc, tu sais, comme les fans sont capables de le faire.
Oui. Non, mais, ils trouveront tout sur Internet. Je suis sûr qu'il y a des mecs un peu fous qui l'ont déjà fait. Mais voilà, gros boulot en perspective, quoi.
Le numérique, on continue.
Ah, on aime bien parler de numérique.
Alors, avec plusieurs petits sujets qui se suivent. On va commencer par signaler une initiative de Patrick Béja dans son podcast Le Rendez-vous Tech. Alors, Rendez-vous Tech, c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui essaye de rendre l'actualité technologique, numérique, accessible à un peu tout le monde. Donc, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt agréable à écouter et on n'a pas l'impression d'être bête, même quand on n'est pas un spécialiste. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'il a invité des artistes pour parler d'artistes et copies. Et pas que des artistes, il a aussi invité des membres du Parti Pirate. Donc les artistes, il y avait un auteur de roman, il y avait un musicien professionnel, mais le genre de musicien professionnel dont on n'entend jamais parler, hein, mais des gens qui arrivent à vivre de la musique quand même, et Thomas Laboureau, le dessinateur de la série Les Geeks, entre autres, hein, c'est ce qui le fait, ce qui le rend le plus populaire, mais il a aussi fait d'autres très très bonnes séries, dont une avec un panda que j'aime bien.
D'accord.
Jolie. J'ai oublié le nom, mais elle est super jolie, ça me donne trop envie de me la choper.
En tout cas, Thomas Laboureau est plutôt connu pour Les Geeks, hein. C'est vrai que c'est oui, un peu ce qui a cartonné, quoi.
Ah, c'est sa BD.
C'est ça.
C'est la BD du supermarché, c'est le truc le plus populaire.
C'est ça. Ah, puis ça marche bien, ouais.
Voilà, c'est ce que t'achètes même quand tu connais pas, quoi.
Ouais, ou pour un anniversaire. Si,
ouais, pour un anniversaire, etc. Et c'est ce que tu vas trouver en supermarché. Ces autres BD, je suis pas sûr que tu les trouves en supermarché.
Je pense pas non plus.
Voilà. Et donc, bah, y a un débat très intéressant avec les artistes qui essaient d'expliquer que oui, bah, nous, on aimerait bien pouvoir vivre de notre travail. Le Parti Pirate qui essaye de dire « Ouais, mais bon, maintenant, le piratage, on va pas réussir à l'arrêter. » Je trouve que le débat est un petit peu biaisé sur un point tout simple. C'est que les artistes sont dans la réalité, dans le sens où économiquement, ils devraient pouvoir vivre et devraient pouvoir y avoir une répartition plus juste. Mais je pense que pour qu'ils arrivent à lutter face au numérique, il faudrait qu'il y ait une révolution numérique, quoi, quelque chose où ça change toutes nos habitudes, et je pense que ça n'arrivera pas. Et d'un autre côté, le Parti Pirate dit qu'il faudrait qu'on passe sur un principe de partage, ce qu'ils appellent le mécénat global. C'est un peu le principe de Flutter, je ne sais pas si tu connais.
Oui, je connais, principe de la licence globale.
Licence globale, la différence là, c'est que tu choisis à qui tu donnes les sous.
Ouais, Flutter, ça c'est vachement, enfin, voilà. Moi je sais que j'aime bien.
Là le principe, c'est que l'idée pour eux serait que tu cotises sur ton abonnement internet ou autre chose, quoi, mais que tu décides à qui tu distribues les sous.
Ouais, d'ailleurs, Flutter, ça a été créé par un gars de ce Pirate Bay, ouais, qui a justement, voilà, on met un petit badge et puis on peut cliquer comme sur les boutons Facebook, genre j'aime, enfin, ouais, ah. et ça partage en fait à tous les gens à qui on a mis j'aime. Par exemple, on dit qu'on paye 20 euros par mois pour ce qu'on lit sur Internet, et si on clique sur 20 boutons Flutter, eh ben chaque personne recevra 1 euro de ce.
Ouais, s'il y a un gars qu'on a beaucoup aimé, il peut en avoir plus, et on peut mettre voilà. 5 euros si on a envie.
Donc ça,
c'est leur principe, c'est intéressant. Sauf que, comme je disais, il faudrait qu'il y ait un bouleversement économique pour qu'un système qui convienne aux Parti Pirate tienne la route. Donc j'ai peur que on soit vraiment dans une forme d'impasse. Je sais pas trop comment on peut sortir de cette situation, parce que on n'empêchera plus les gens de pirater. Je veux dire, c'est foutu. Les gens ont pris de mauvaises habitudes.
C'est pas une question de mauvaises habitudes. C'est aussi devenu quelque chose de culturel. Enfin voilà, on a envie de quelque chose.
C'est culturel. C'est une habitude. Il y aurait eu des offres adaptées dès le départ pour acheter les trucs au bon tarif. Pour moi, c'est toute une problématique d'offres, quoi. Les gens auraient pris l'habitude de payer.
Mais alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce là-dessus. Enfin, le fait est que les éditeurs, si on reste dans le milieu de la BD, n'ont pas pris le virage numérique, hein, on le voit même maintenant, la moitié des trucs, il n'y a rien de disponible. Et le problème, c'est qu'on est dans cette double... En fait, il y a un double système. Il y a le système illégal où on va pirater, on récupère des choses, et il y a le système légal qui passe uniquement ou quasiment par des maisons d'édition qui sont dans des vieux systèmes.
Non, mais c'est un truc tout bête. Je veux lire un Tintin sur ma tablette.
Oui.
Je vais essayer de l'acheter. Je ne vais pas y arriver, ça va me gonfler. Je vais donc essayer de le trouver. Est-ce que je veux lire ce Tintin sur ma tablette ? Disons même que j'ai déjà ce Tintin chez moi, mais je veux le lire sur ma tablette. Donc je vais trouver un moyen de le pirater. Le piratage, malgré ce qu'on en dit, ce n'est pas si facile que ça. Il y a des démarches à faire, des réseaux à trouver. Faut trouver les adresses. Mais une fois qu'on les a trouvées, ça devient facile.
C'est ça.
Et donc, vu que les éditeurs m'ont pas proposé d'avoir légalement le truc, moi, je me suis cassé le cul pour le trouver illégalement. Et ensuite, j'aurais plus aucune difficulté pour trouver d'autres trucs illégalement.
Exactement. Mais le problème, c'est que les éditeurs, ils veulent pas comprendre ça, parce que eux, ils sont dans leur problématique de, en gros, c'est eux qui récoltent l'argent, hein, et après, ils redistribuent les droits d'auteur, etc. Et leur but, même s'ils le disent pas, c'est quand même aussi eux de payer le moins de droits d'auteur possible. Enfin, on voit quand même comment ça s'est passé avec la loi, là, justement, pour pouvoir rééditer des œuvres sans donner de droits d'auteur.
Hop, transition!
Enfin, voilà, on y est, hein, on y est, mais parce que Fabien Fabien Velman.
Ah, vas-y, réexplique un peu cette loi. Moi, je t'avoue, j'ai un peu suivi, mais c'est pas très clair pour moi. J'ai pas eu le temps d'aller dans le fond. Donc,
mais vas-y, en fait, c'est l'idée, c'est quand une œuvre est épuisée, c'est-à-dire qu'un éditeur dit, bah, en gros, soit ça s'est pas vendu, ou ça s'est. On sait que si on réédite, ça se vendra pas. Bon, bah, l'œuvre
est épuisée.
Les droits
sont disparus, c'est passé 70 ans après.
Ah non, justement pas. Non, justement pas. C'est-à-dire que, par exemple, il y a telle BD, ça fait 30 ans qu'elle est partie, enfin qu'elle a été vendue, etc. Il y a plus de stock et il y a plus, enfin, soit l'auteur veut pas forcément que ce soit réédité parce que ça coûterait trop cher et il y aurait pas d'intérêt économique à rééditer l'œuvre. Eh bien, plutôt que de rééditer, on va l'envoyer en numérique en fait, sans que l'auteur en fait, ne touche quoi que ce soit dessus. Il n'y aura que l'éditeur qui touchera de l'argent dessus. Et si tu veux, l'auteur peut dire non à ce système, mais il va être obligé de faire lui-même des démarches.
D'accord, ouais, c'est une démarche d'opt-out, c'est-à-dire que l'auteur, on ne va pas dire à l'auteur, au fait, ton œuvre n'est plus disponible, donc tu peux décider de dire non. On va juste dire qu'on la met, et si l'auteur se manifeste, il a le droit de dire.
Voilà. Il a le droit, en fait, après, de l'enlever, etc., et de ne pas rentrer dans le système, en fait. Ouais, voilà comment
soit,
ça marche.
Faut juste que l'auteur qui a été publié il y a 30 ans soit au courant que son œuvre est sur Internet.
C'est ça.
Sachant qu'il est peut-être trop vieux pour même savoir ce qu'est Internet.
Non, mais ah bah ça.
Bon, j'exagère. Mais...
Mais globalement, là, bah, les éditeurs viennent de passer un gros contrat avec Google pour justement hein, profiter de cette nouvelle loi et aller sur le numérique avec ce système-là, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, on va avoir du scan et on va avoir des choses disponibles sur Internet. Alors, ce sera légal, on payera, mais les auteurs sont la variable d'ajustement, quoi.
Alors, Fabien Velman fait un article sur son blog plein de liens qui remènent pour un peu mettre les choses claires. Moi, j'ai pas eu le temps de suivre les liens, vraiment. J'ai mal fait mon travail. Le seul truc que je dis, c'est que ça lui donnerait presque envie de redessiner Bob le Cowboy. Et moi, je dis ouais.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce soit pour les pirates ou que ce soit pour l'industrie, c'est toujours l'auteur qui est la variable d'ajustement. Quoi. C'est quand même assez dingue parce que le pirate donnera pas d'argent à la méchante corporation, machin et tout. Et puis c'est toujours un peu l'argument qu'ils prennent, genre « j'ai pas envie de payer Universal, c'est des méchants, ils donnent quasiment rien aux auteurs. » Mais bon, mec, quand tu télécharges, tu donnes rien à l'auteur non plus. Enfin, ils réfléchissent pas tous jusque-là.
On peut aussi, je crois qu'il faut faire gaffe aussi, tu dis les éditeurs.
Mais bien sûr, et puis ils font leur boulot.
Il y a aussi des... Enfin, tous les éditeurs sont pas comme ça. En fait, je sais pas, je pense qu'ils font aussi leur boulot et... Enfin, c'est normal que ce soit
pas des éditeurs. Et puis il y a autre chose. Et puis les éditeurs, enfin, il y a un moment, faut arrêter. S'ils font ce genre de partenariat, etc., c'est pas pour spolier donc les auteurs. C'est parce que c'est la crise que quoi qu'on en dise. Et je pense qu'on l'a assez dit ici. La BD se casse la gueule en termes économiques. C'est de moins en moins rentable. Il y a de moins en moins de pognon. Donc il faut bien aller chercher.
Il y a 500 sorties la dernière semaine d'août.
Voilà, non mais enfin, ouais, mais pourquoi ? Parce que le système est en train de se casser la gueule. Et il y a un moment où il faut bien eux aussi qu'ils aillent chercher de l'argent quelque part. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, taper trop sur les éditeurs. C'est pas genre les méchants éditeurs. Le problème, c'est juste qu'à la fin, c'est quand même toujours l'auteur qui est la variable d'ajustement dans tous les systèmes, en fait. Et du coup, là, les auteurs essayent d'avoir un vrai statut et essayent de s'organiser un peu sur Facebook avec le SNAC, donc et le syndicat des auteurs. Et ils essayent de s'organiser pour essayer d'avoir un vrai statut, quoi. Mais
on va voir des choses avancer.
Voilà, mais c'est vraiment assez triste.
Je pense que l'année 2013 va être une année... Enfin bon, on disait déjà ça de l'année 2012, tu vas me dire. Ouais. Mais oui. L'année 2013, c'est la bonne. Ça sera une année charnière.
Ah, c'est ça, la fin du monde, tout ça. Enfin voilà, après ça ira mieux, hein, on espère.
En parlant de fin du monde, nous allons parler de The Hot Meal. The Hot Meal est un blog, je crois que je ne suis pas sûr d'en avoir déjà parlé en fait. C'est un blog BD américain, donc en anglais, très très geek, bourré de références bien bizarres. Il y a des licornes, des ours et des dessins bizarres dessus. Et très populaire, qui fait un gros carton.
Alors moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Vraiment, ça a l'air rigolo. Voilà.
Il lui arrivait quelque chose de pas terrible au monsieur de The Hot Meal. Alors, sur le podcast, alors c'est rigolo parce que je voulais en parler. Ils en ont déjà parlé dans le podcast écran.fr qui est paru il n'y a pas longtemps, mené par Erwan Cario. Très bon podcast aussi. C'est la pub des podcasts.
C'est ça. Ce soir, ouais, c'est un spécial. Ouais. Podcast spécial podcast.
Et donc, l'auteur Matthew Inman gère ce blog BD-là. Et il s'est rendu compte qu'un site qui s'appelait Funny Junk s'amusait à publier plein de CBD avec plein de pubs où il se faisait plein de sous en fait grâce à lui dessus. Et donc, bah, lui, bien sûr, il s'en est un peu, il a fait remarquer. Sauf que le site Funny Junk, ils ont une façon de fonctionner, c'est que ce sont les utilisateurs qui proposent les liens subtils. Hein.
Non, mais ça,
donc, en gros, c'est jamais eux.
C'est fermes de contenu qui se font un tas de pognon. C'est vraiment le cancer d'Internet, quoi.
Et donc, il leur a dit, ça serait cool de les enlever. Sauf qu'il s'est rendu compte que ça revenait non-stop. Donc, il a coupé la gueule. Et donc, bah, il en a parlé, hein, c'est sa seule arme qu'il avait, sur son blog. Et comme il a des tonnes et des tonnes de fans, et bah, ça a beaucoup fait parler.
Bah oui,
donc,
forcément.
Qu'est-ce qui se passe quand on parle beaucoup d'un truc sur un site qui a des tonnes de fans?
Eh bah, il arrive en premier sur Google.
Et Funny Junk, ils n'ont pas été contents. Alors, ils ont fait appel à leur avocat. Et leur avocat, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait, eh bah, écoutez, vous avez fait un complot d'Internet avec Google pour être contre mon client. On demande 20 000 $. De dommages et intérêts. Je ne suis pas en train de torturer ma fille. Vous croyez? Et lui, il a dit vous rêvez. Il en a reparlé sur son site et avec joie et bonheur, il a proposé de faire une nouvelle opération qui est.
Alors, elle s'appelle exactement Beer Love Good, Cancer Bad.
Ouais, l'amour des ours, c'est le bien, le cancer, c'est le mal.
Ouais, parce qu'en fait, au lieu de leur envoyer les 20 000 $ demandés, il va plutôt leur envoyer une image de leur maman qui est en train d'essayer de séduire un ours. Il faut aller voir l'image, c'est assez rigolo.
Et donc, il a lancé une campagne sur un site sur Internet de campagne un peu à la Kickstarter, qui s'appelle Indiegogo, pour avoir demandé aux gens de donner ces 20 000 $ et
voilà.
Pour retransmettre... Ces 20 000 dollars seront répartis entre une association pour préserver les ours et une association contre le cancer.
Voilà. Et donc, non, mais c'est vraiment génial. L'idée est top et je pense que ça a plu hein, parce que au lieu de récupérer 20 000 $, ils en sont à l'heure actuelle à 208 257 $ récupérés pour ces associations.
Ce qui est exceptionnel.
Non, mais c'est plus qu'exceptionnel, quoi. Enfin, voilà, ce qui prouve encore, c'est-à-dire que non seulement Funny Junk, qui est un site, enfin voilà, faut pas y aller, du coup, se fait bien taper dessus et tout le monde se moque d'eux, et en plus, on récupère, enfin, chaque association récupérera plus de 100 000 $. Enfin, voilà, moi, je trouve ça juste génial. Enfin.
En tout cas, c'est une très très bonne opération. Moi, je trouve ça très très fun. Je trouve que le pouvoir de l'Internet, c'est quand même la classe.
C'est ça.
Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ma fille est en train de nous signifier l'heure du départ, comme vous pouvez tous
l'entendre. Exactement.
Encore merci à toi, Merton, et on se retrouve dans le mois prochain.
De rien. À très bientôt. Ciao, ciao.
Express.
Ultimate Fallout, c'est un Spider-Man, Ultimate, Spider-Man hors série.
C'est un quoi? C'est Ultimate Spider-Man ou hors série?
C'est un Ultimate, c'est les trois.
Ah, c'est cool.
C'est les trois. Ultimate Spider-Man hors série qui nous raconte un peu ce qui s'est passé après.
Après quoi?
La... On va devoir le révéler hein, pour les gens qui n'ont pas lu.
Pour les gens qui n'ont pas vu l'énorme couverture avec la mort de Spider-Man 1
écrit
sur 2.
En gros, voilà, c'est ça.
La mort de Spider-Man 2 sur 2.
Non, la mort de Spider-Man Prélude, ça avait commencé.
Ah oui, exact.
Il y a eu d'abord la mort de Spider-Man Prélude, puis en 3 volumes, puis la mort de Spider-Man en 2 volumes. Et maintenant, c'est Spider-Man est mort. C'est bon. Donc, Ultimate Fallout nous raconte ce qui se passe après que Peter Parker fasse un gros combat, se soit fait un petit peu dérouiller et soit mort. Et ils en profitent pour faire un petit peu le point sur tout l'univers Ultimate, parce qu'en gros, bah, apparemment, après le dernier gros crossover Ultimate qui s'appelait Ultimatum, ça devait tout remettre à plat, et en fait, ils ont un peu foiré leur coup, en fait.
Je crois qu'il n'y a rien qui aille, enfin, rien n'est à plat, quoi. Hein, c'est, enfin, ou, rien n'est à plat, ou tout est à plat, justement. C'est,
donc, c'était
ça peut être le défaut, quoi.
Voilà, un petit peu le bordel, et donc, ils ont décidé de repartir encore sur de nouvelles bases avec ce Fallout qui nous voit donc ces 6 chapitres hein, qui sont réunis dans le comics où on a une équipe, alors on va vous faire la totale hein, on a Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman et Nick Spencer au scénario. Alors ce sont les scénaristes respectifs qui vont reprendre les séries les séries Ultimate qui vont suivre. Donc on va avoir un Ultimate Spidey, je crois qu'on a un Ultimate
Avenger,
enfin je sais pas exactement quelle série vont arriver derrière, on s'en fout. L'idée c'est que ce sont les scénaristes de l'univers Ultimate qui en gros ont chacun repris pour reposer des bases pour reprendre derrière. Et alors aux dessinateurs, ils se sont dit hey, on va pouvoir en mettre un peu beaucoup, mais beaucoup.
Beaucoup.
Parce que au niveau des des artistes, nous avons Marc Bagley, Gabriel Hartmann, Brian Hitch, Lee Garbett, Steve Kurtz, Erin Guyen, Carlos Pagulian, Sarah Piccelli, Salvador Larocca, Clayton Crane, Luc Ross, Billy Tan et Mitch Brettweiser.
Au milieu, il y en a un, j'ai pas entendu, j'ai pas bien compris, t'es un peu bafouillé.
Ouais, je sais.
Le 314e est un peu inaudible.
Alors, ils sont des tonnes, mais pourquoi? C'est parce qu'en gros, chaque. En fait, il y a un segment pour chaque personnage qui va nous dire où il en est, de quoi il parle, etc. Chaque personnage a son petit segment, et chaque dessinateur va dessiner son segment. Sauf, bien sûr, le premier chapitre qui s'appelle Spider-Man Rip, qui est là et fait par l'équipe originale qui gère toujours Spider-Man, c'est-à-dire Bendis et Bagley à la base. Voilà sur le truc. Et donc chacun va un petit peu parler de tout. Donc on a des news de Red Richard, savoir ce qu'il est devenu depuis 4000 ans.
Il est vachement loin.
Ouais. Il nous parle de Nick Fury, de Spider-Man, de Valérie Cooper, de Tante May, de Kitty, Bobby et Johnny. Ça fait vraiment Kitty, Bobby et Johnny à la plage. Bon, bref, c'est un épisode qui pour moi. Scénaristiquement, était assez bordélique.
Oui. Scénar bordélique.
Bah, ça nous remet des bases dans tous les sens, mais il y a tellement de personnages, tellement de trucs qui arrivent dans tous les sens que on a l'impression que oui, ils nous posent des bases, mais c'est vraiment le. Je vous mets des petites touches de. Hey, regardez, plus tard, il va y avoir un truc sympa, mais des tonnes. C'est pas clair, ça part dans tous les sens. Quoi.
Ouais, non, au niveau de la clarté, je trouve que c'était assez clair, mais moi, ce qui me manque, ce serait qu'il y ait des pages de plus. Quoi. Voilà. Il a fallu qu'il puisse déjà développer un peu plus, ça aurait été sympa.
Bah, je pense que le développement, ça sera dans les titres Ultimate derrière.
Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, enfin, ouais, je sais pas, je me répète comme un vieux con, quoi, mais c'est que du coup, tu balances des pistes, mais la piste, elle fait deux cases. Quoi. Bah, fais-nous un truc un peu plus long, prends ton temps. Quoi.
Pour les dessinateurs, pareil, j'ai mis bordélique parce qu'ils sont tellement des tonnes et en fait le passage d'un chapitre à l'autre, c'est jamais toujours clair. Et
non, puis on sait
jamais
clair,
qui dessine quoi, etc. Ils auraient pu faire des choix un peu plus heureux au niveau de la narration à ce niveau-là. Quoi.
Bah moi j'ai mis variable dans le dessin parce que
j'ai mis bordélique.
Ah ouais, d'accord. Tu t'es pas ennuyé toi sur les mots sympas. Hein. Ouais. Non, variable parce que. Tu as toujours donc tes héros qui sont dessinés, mais ils sont dessinés par différentes personnes, donc c'est différentes visions du personnage que tu as.
Il y a de très bons auteurs en plus.
Il y en a qui sont vraiment excellents, mais forcément, du coup, tu as ton parti pris qui fait qu'il y en a certains que t'aimes plus que d'autres, quoi. Donc,
Et puis après, c'est vrai que quand on a le style d'un Hitch et celui d'un Brightweather derrière, qui sont des styles rien à voir, Hitch, c'est super héroïque, les mecs, ils en font des tonnes, ils sont super balèzes. Brightweather, je crois que c'est lui qui dessinait je crois que c'est Frontline. Attends, je dis une connerie. Frontline, c'est pour les animaux, mais est-ce que c'était ça?
Frontline
c'est...
Combo?
Non, tu sais, dans les Civil War. Oui, c'est ça. Tu sais, dans Civil War, quand t'avais les aventures à côté du reporter, je crois que c'était Frontline, le nom de son magazine.
Ouais, les super-héros, c'est des grosses plus quand même. Hein,
voilà. Peut-être. Mais donc un style plus réaliste, plus dark, etc.
Et avec un Bagley aussi, ça fait bien Bagley, différent. Quoi.
Oui, qui est devenu bon, Bagley. Je l'aimais pas du tout au début. Bref, c'était une bonne tonne de trucs bien, bien cool.
Donc en fait, le mélange n'était pas très heureux, en fait.
C'est ce que j'ai dit. Juste un autre point. Ça annonce que le magazine va ressortir maintenant. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini les magazines avec deux épisodes dedans. Ils vont ressortir un magazine Ultimate Comics avec plusieurs séries Ultimate, comme ils font sur les modèles des autres trucs. Ça va gagner un petit peu en cohérence, je pense, au niveau de la gamme Ultimate en kiosque.
En cohérence, et puis même aussi pour le lecteur, parce que du coup, tu auras plusieurs histoires.
On a les premiers pas du nouveau Spider-Man aussi qui quand même, font envie.
Qui va être un vrai loser, en fait. On retrouve un peu le Peter Parker des débuts aussi.
J'attends d'en apprendre plus sur lui, hein, quand même.
Question du noob, moi qui ne suis quasiment rien en comics, c'est ça, c'est le principe. On a déjà donné la définition
de
noob.
Vas-y, vas-y, on
est-ce que ça va donner la possibilité aux plus jeunes, aux ados, qui n'ont pas du tout lu les 30 ans de carrière de Spider-Man et autres, de repartir là-dessus? Est-ce que c'est vraiment de nouvelles bases?
Alors déjà, on est dans l'univers Ultimate.
Réattaquer, quoi.
On est dans l'univers Ultimate. L'univers Ultimate, c'est un univers parallèle, donc tu oublies tout ce qui a été fait à côté, qui est beaucoup plus proche des films dans le ton, des derniers films, donc sur lequel c'était un peu le but à la base, c'était qu'à chaque fois on ait des arcs narratifs qui soient complets, ce qui fait qu'on puisse accrocher les wagons en cours de route sur dès qu'on commence un nouvel arc narratif, on peut normalement accrocher les wagons. Sauf que ils ont fait comme avec toutes les séries, ils ont fini par mettre de la continuité dans tous les sens, que ça partait dans tous les sens. L'idée effectivement de chaque gros crossover qui remet les choses à plat, c'est de pouvoir repartir du départ. C'est-à-dire que dans le prochain numéro de Ultimate Spider-Man sera un nouveau personnage, donc on va pouvoir redémarrer à zéro. Les autres personnages qui vont réapparaître, ils vont repartir sur une nouvelle base, je pense, qu'ils vont bien expliquer derrière. Là, on est vraiment dans un épisode de transition. Voilà, pour faire la transition entre avant la mort de Spider-Man et après ce qui va se passer.
Le changement, c'est maintenant, quoi.
C'est ça. Batman Showcase numéro 2.
Et c'est Isaac qui en parle.
Donc, a priori, c'est le deuxième volet de Batman Showcase et ça doit parler de Batman.
Merci, Isaac. Ben voilà. Alors donc, on passe au suivant.
Non, putain, ça va, mais ça va. Oui.
Donc, Batman Showcase. Donc, on continue toujours dans l'univers de la Batman Incorporated, avec plein de Batman partout dans le monde. Mais là, on est revenu, on se centralise vraiment sur Gotham et sur la vie de Batman et du nouveau Batman et de Robin et un nouvel ennemi.
Bah déjà, au niveau de la série, dans ce Batman Showcase, c'est des épisodes de la série Batman et Robin qui sont publiés, alors que dans le précédent, c'était des épisodes de la série Batman Inc. Donc,
Batman, voilà. Et donc là, du coup, on va avoir un nouvel ennemi qui a comme passe-temps d'essayer de tuer toutes les familles des criminels de Gotham. Tous ceux qui sont enfermés à Arkham.
Ça fait du monde, hein, parce que...
oui, c'est là où tu dis qu'il y a quand même du monde.
Putain, heureusement qu'il y a ceux qui ont des familles nombreuses.
Et en fait, il les pousse au suicide avec divers procédés.
Voilà, ils tombent comme des anges.
Donc, voilà, c'est très graphique. Très graphique. C'est des beaux suicides.
Nous avons au niveau de l'équipe un notaire qui s'appelle Peter Tomasi avec Patrick Gleason au dessin. C'est une nouvelle équipe apparemment. C'est eux qui vont reprendre le Batman dans le futur, là, après qu'il y aura 52, que tout sera recommencé à zéro. Oui, juste pour info, hein, l'univers DC Comics repart à zéro comme si de rien n'était le mois prochain. Donc,
en France.
En France, oui, c'est déjà arrivé aux États-Unis. Mais en France, donc là, c'était vraiment les derniers épisodes de l'ancienne série qui passait. L'ancienne série ne sera pas passée en intégralité en VF. Et oui, ils ont fait des coupes pour. Parce que le changement, c'est maintenant.
Ouais, pour essayer de se raccrocher
au. Des coupes pas forcément très heureuses, mais voilà. Moi j'ai bien aimé le dessin de Patrick Gleason. J'ai trouvé que c'était honnête, ça tenait la route, c'est propre, ça marche bien, il y a une mise en page sympathique, c'est pas bluffant, mais c'est efficace.
Ouais, je trouve ça vraiment efficace. Puis en même temps, il y a vraiment une planche qui m'a marqué, c'est le plateau repas, quoi.
Oui, on voit.
On voit Batman avec
Bruce Wayne. Ouais. Avec les trois Robins, enfin.
Avec sa famille, quoi.
Sa famille, voilà.
En train de se mater un Zorro avec un plateau repas.
Tous les Robins et Alfred.
C'est excellent.
Pour regarder le Zorro, le film.
Et puis je trouve, voilà, vraiment, il le pose en
patriarche, père, quoi. Ouais, c'est le patriarche, là. Clairement, il est posé en patriarche. Il s'est créé sa petite famille. On a aussi une histoire un petit peu à part, complètement débile, mais très très drôle, qui est scénarisée par David Hine et dessinée par Greg Tokini, qu'on avait vu dans.
Bien sûr!
The Last American Crime.
Oui.
Greg Tokini, qui avait un très bon dessin, qui l'a repris du Batman, donc du super-héroïque un peu classique. Il a toujours un style, moi, que je trouve aussi bluffant. Là, pour le coup, on a un style qui en jette. Et qui est une histoire un peu débile qui part dans tous les sens, qui est un gros hommage à Grant Morrison. Un très gros hommage à Grant Morrison. Ouais, t'as pas capté l'hommage ?
Ah ben là, non.
Non. Pourtant, tu sais, dans le rédactionnel que t'as peut-être pas lu, en fait, ils te disent « Hey, c'est un hommage à un auteur, devinez lequel ! On a un indice, telle page !»
Ben non.
Voilà. Bon.
Ben voilà, ça c'est fait, merci. Hein.
Je te trouve un petit peu tranchant ce matin, Pierrick. T'as pas dormi cette nuit ou quoi ?
Non, ça va.
De suite, et le truc... Et là, au fait, t'as mieux préparé ? Non. Ah ben t'es une merde, voilà. Merci. Allez, circulez, y a rien à voir.
Dans les bacs.
Eh ben, tu vas parler de la suite, hein ?
Pour un peu de bonheur, hein, voilà.
Pour un peu de bonheur.
Alors, heureux.
De Laurent Galandon et Adam. Alors, c'est le pseudo de l'auteur qui s'appelle Anthony Daniel ou je sais pas quoi. Adam. Pour un peu de bonheur, c'est paru chez Grand Angle. Et c'est une série historique, médicale, entre guillemets, qui nous raconte l'histoire d'un gars qui revient de la guerre. Et qui a été un petit peu défiguré, dévisagé.
C'est pour ça que c'est médical pour toi ?
Ouais. Bah, il y a un côté, il s'intéresse beaucoup au côté. Bah, enfin, moi, c'est le bonus qui me donne cet effet-là, en fait.
Ah oui, non, parce que, enfin, oui, c'est parce que c'est pas urgence, quoi. Hein.
C'est pas urgence.
C'est grâce à l'anatomie. Bah,
médical, dans le sens où il s'intéresse aux séquelles psychologiques des gars qui reviennent de la guerre, quoi.
Dans ce cas-là, j'aurais peut-être dit psychologique plus que médical.
Ouais.
Mais bon, donc, après, c'est personnel.
Et ensuite, donc, ce héros, donc, comme à l'accoutumée, j'ai oublié le nom, qui revient chez lui avec sa femme, à retrouver sa femme qui le croyait mort, ou très classique, hein, et qui essaye de se réorganiser dans sa vie en revenant. C'est la guerre de 14-18, hein, il me semble. Je sais plus.
Oui.
Oui, c'est ça, 14-18. Voilà, et c'est une gueule cassée. Voilà pour le résumé.
Juste quand même, il faut rajouter que dans la région dans laquelle il revient, lui, il veut une vie tranquille et malheureusement, il y a des crimes.
Oui. Et un autre gars
qui vient de Paris,
qui vient de Paris, qui enquête, qui lui aussi est un ancien de la guerre, qui a aussi été blessé, il lui manque un bras. Voilà. Donc il y a des crimes et donc c'est de la mise en place. Moi, je trouve que c'était un tome de mise en place. J'ai trouvé le rythme assez lent. D'un point de vue du scénario, c'est mon mot. Ça m'a pas emballé plus que ça. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a à la fin du tome, il y a un bonus qui nous raconte justement un peu comment les techniques médicales qu'ils avaient pour tout ce qui était reconstruction faciale sur les gueules cassées et compagnie, qui est intéressant en soi. Mais ça m'a pas. Enfin, moi, j'ai pas été très 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 emballé par le scénario. On sent un truc, mais ça avance pas, quoi. C'est-à-dire que la chute, en plus, on a l'impression que c'est une chute qui est posée en vrac, quoi. C'est-à-dire que on sent que le gars, il a fait son truc, il a écrit son histoire en plusieurs, son histoire, et puis au bout d'un moment, on lui a dit, il faut que ça fasse 48 pages le premier tome, alors il a coupé. Il y a pas de cliffhanger, il y a pas de lancer derrière, il y a pas de suspense, il y a rien qui te, enfin, tu t'es arrêté au milieu de ta lecture, t'as l'impression. C'était pas très heureux, quoi, comme choix.
Ouais, non, là je suis pas d'accord. Écoute, moi je trouve que c'est un polar. Après, c'est vrai que le rythme est lent, mais assez contemplatif, quoi. Tu vas suivre la douleur de l'ancien soldat, sa douleur physique, sa douleur morale, avec une famille donc qui est a priori brisée en 12 000 morceaux, quoi. Parce que son gamin, il se fait traiter de tous les noms à l'école. Il a presque eu envie que son père meure finalement à la guerre. Sa femme, elle se complaît dans son rôle de coupable, mais en relançant à chaque fois le sujet, alors que lui, il n'a pas envie d'en parler.
Oui, parce que, bien sûr, c'est classique. Elle le croyait mort, donc elle a eu quelques exactions.
Ouais. Ça, c'est assez rossinien, en fait, comme dans Friends, tu vois, mais on était séparés.
Ouais. Voilà.
Mais et après, tout le rythme très lent, moi, je trouve qu'au contraire, ça allait très bien avec le dessin, parce que c'est... Pour moi, pour le dessin, j'ai mis vraiment presque photographique, quoi. J'avais l'impression de voir des scènes de vie en photo à chaque fois.
Moi, j'ai mis classique. C'est-à-dire que c'est un style très, très classique, très propre. On n'est pas dans une ligne totalement claire. Hein,
Disons que cet aspect, pour moi, photographique, un peu paysage à des moments, c'est ce qui fait justement, tu vois, tout le rythme de l'histoire, quoi. Ce rythme lent qui te fait... Tu vois les événements, mais pour l'instant, t'as pas encore tous les tenants, les aboutissants. Et au contraire, c'est ce qui me donne envie de lire la suite, tu vois.
Ouais, moi, je sais pas. Moi, j'aurais préféré avoir quelque chose de plus complet, en fait. C'est le genre de bouquin, ça me donne l'impression que... C'est un peu l'ambiance qu'on avait quand on lisait du Daredevil de Bendis, où tu te dis, putain, si je lisais les tomes un par un par mois, je trouverais ça très, très lent. Mais de lire l'intégrale, ça passe très, très bien. Là, j'ai l'impression que... Il faudra lire l'intégrale pour vraiment apprécier pleinement le
truc. Ce qui prouve déjà que tu l'apprécies.
Oui, je suis intrigué, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais en gros, je t'avoue, quand je l'ai refeuilleté tout à l'heure, j'ai fait ça.
Ah, tu l'as refeuilleté tout
à
l'heure.
Ouais, c'est ça, avant de venir. J'ai fait oui, c'est ça déjà.
Non,
que j'ai
parce
lu.
Que j'ai pas vu le rédactionnel sur Baton Showcase, mais bon. Voilà. Il y en a d'autres qui ont oublié les BD.
Bon, c'est tout ce que tu avais dit. Toi, ça t'a beaucoup plu. T'as envie de...
Non, moi, j'attends la suite vraiment. Je pense que ça peut être très sympa.
De toute façon, Laurent Galandron est un auteur. Je pense qu'on va réentendre parler, qui apparemment est un des gars qui se fait bien connaître chez Grand Angle. On en reparlera sans doute quand on parlera de la lignée plus tard, qui est le gros projet éditorial sur lequel il me semble qu'il a travaillé. L'île au trésor.
Donc l'île au trésor de Stassen et Venner, on l'aura compris au titre, c'est un remake, une sorte de transposition du livre de Robert Louis Stevenson, mais dans une problématique plus polar et contemporaine. L'histoire se place dans un milieu urbain populaire. Personnellement, j'ai trouvé que l'adaptation était une vraie réussite, enfin mon goût en tout cas, avec des personnages qui ont une vraie profondeur, et puis il y a une grosse part de mystère. Il y a notamment... Tu veux faire un commentaire, mon cher Thio ?
Non, c'est juste que tu tapes sur la table à chaque fois que tu donnes.
Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouais, mais ouais, c'est mon côté un politique, ça. J'ai des vraies convictions.
Oui. Donc, vas-y.
Donc, ouais, l'adaptation, enfin, pour moi, est une vraie réussite. Des personnages avec une vraie profondeur, du mystère pour certains de ces personnages-là. Ça donne un vrai plus. On baigne dans des espèces d'intrigues politico-philosophiques. Il y a une vraie réflexion derrière. Et pour le coup, ça m'a donné vraiment envie de relire l'œuvre originale.
Remets-nous un peu le scénario pour ceux qui ne connaissent donc, pas l'île au trésor. Vas-y, tel qu'il est transposé ici.
Tel qu'il est transposé ici, le pitch est, il y a de l'argent sale qui est planqué dans une espèce de quartier, une zone qui est en démolition. Et cette zone en démolition, un coup les travaux s'arrêtent, un coup les travaux reprennent, etc. Bref, c'est de l'argent dessous de table pour des constructions, le milieu immobilier.
Qui a été planqué dans un des immeubles. Quoi.
Voilà, alors ça a été planqué dans plusieurs immeubles, hein. C'est réparti un petit peu. Donc voilà. Et on a les codes de l'île au trésor avec justement des petits codes pour retrouver les bâtiments, est-ce que c'est le numéro des bâtiments, etc. etc. Des personnages, pour certains, relativement vieux, pour d'autres, plus jeunes, notamment une petite gamine dont j'ai bien évidemment oublié le prénom, qui sert de fil conducteur à toute cette histoire. Jacqueline, absolument.
Bah oui.
Surnommée Jaco. Donc voilà, qui sert de fil rouge un petit peu à tout ça. C'est extrêmement bien écrit. On va peut-être passer aux petits mots.
Oui, bien sûr. Passons aux petits mots. Donc le scénario. Donc quel a été ton mot, mon cher Isaac?
De la crudité urbaine. Parce que c'est assez. On n'y va pas par quatre chemins, quoi. On n'est pas dans un bouquin qui peut faire 600 pages alors que l'histoire le permettrait. Et on y va assez rapidement, quoi.
Moi, j'ai trouvé ça surprenant dans le sens où l'adaptation m'a surprise. Et surtout que je me suis rendu compte que je me souvenais pas. Enfin, je crois que j'ai pas lu L'île au trésor, en fait. Tu sais, c'est le genre de bouquin, tu étais persuadé de l'avoir lu. Et là, t'arrives, tu te dis, putain, mais en fait, peut-être pas. Voilà. Et j'ai trouvé plein d'éléments, que je ne connaissais pas. Je sais pas à quel point c'est bien adapté. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super sympa. Thio, au niveau du scénario?
Moi, j'ai une salade César pour la 12.
Désolé, c'est que j'ai eu un moment de déconnexion quand tu as parlé de crudité urbaine. J'ai pensé à un jardin urbain et voilà.
Oh là là.
Désolé, c'est con, mais bon. Donc moi j'étais sur vraiment la transposition de l'histoire. C'est ça mon mot pour le scénar, c'est de la transposition.
Toi tu l'as lu.
Alors moi j'ai lu.
Tu le redis régulièrement, non,
je crois. Ouais, j'ai déjà lu plusieurs fois en fait. Et donc du coup j'en sais plus rien. Transposition, voilà.
Ouais.
Parce que il a transposé certains morceaux, on va dire, de l'intrigue et des faits qui se passent dans l'île au trésor pour faire, on va dire, le lien dans son histoire. Mais il y a des points communs, mais il y a quand même beaucoup de points différents, en fait. C'est,
il y a des divergences.
Ouais. Au niveau des personnages, bon, on retrouve Long John Silver, on retrouve Jim.
Il s'appelle Jean d'Argent.
Jean d'Argent. On retrouve plein de choses dedans.
T'as les archétypes, en fait, qui sont toujours là.
Qui sont toujours présents. Maintenant, après, c'est vrai qu'au niveau des faits, pareil, du déroulement chronologique, tu vas retrouver les mêmes événements qui vont se dérouler, les séparations des groupes, les retrouvailles, les morts, voilà, la mort de certains personnages, le fait que certains personnages sont obligés de tuer, ce qui va...
Les trahisons,
ce qui va forcément les changer, irrémédiablement. Et tout ça, voilà. Fait que c'est l'île au trésor, mais à Paris, quoi.
Ça donne pas. Enfin, moi j'ai l'impression que ça donne une dimension plus sociale que pouvait avoir l'île au trésor. Enfin, qui devait peut-être déjà exister dans l'île au trésor à l'époque, mais qu'on a perdu parce qu'on a ce décalage vis-à-vis de l'époque.
Ben, dans l'île au trésor de l'époque, t'as pas justement le. Le lien que tu as entre Jaco et Jean d'Argent, il est. Pour moi, dans l'île au trésor, il est entre les lignes, quoi.
Oui. Il n'est pas clairement énoncé. Il n'y a pas vraiment cette relation qui va se créer un peu père-fils, quoi.
Oui.
Voilà, c'est père-fille, mais. Et là, c'est vrai que tu as vraiment un relationnel qui se crée et quelque chose qui est plus intéressant, quoi. Enfin, qui est intéressant différemment.
Mais je voulais dire, la dimension sociale, justement, le côté, les quartiers qui sont en train d'être détruits, les gens qui se retrouvent un peu à l'ouest, dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment, pour moi, il y avait une dimension sociale dans ce bouquin-là, où on montre les gens qui se font virer d'un quartier pour des histoires immobilières, la reconstruction du paysage urbain. Enfin, t'as toute une série de thématiques. Je me demande si c'était pas des thématiques qui étaient déjà présentes en filigrane dans L'île au trésor, mais qu'on voyait plus forcément parce que c'est ça a 200 ans, quoi. Pas loin.
Pour moi, le bouquin porte pas là-dessus. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de rentrer dans la dynamique contemporaine, ces problématiques-là. Mais le bouquin n'est pas une réflexion sur ces problématiques-là. Pour moi, c'est juste un outil pour nous plonger tout de suite dans quelque chose de très concret, de très réel pour nous, quoi. Oui, la réflexion, elle est sur les relations entre les gens, la confiance qu'on peut avoir en l'autre, comment est-ce qu'on fait pour apprendre dans la vie. Voilà, c'est des réflexions pseudo-métaphysiques, philosophiques qui traînent là derrière et qui, pour le coup, par rapport à l'œuvre originale, vu qu'on est sur un format court, l'auteur est obligé de nous les asséner de façon directe. Et le rapport direct, justement, entre Jaco et D'Argent permet d'accélérer ça et pas de le laisser entre les lignes, comme tu disais.
Au niveau du dessin, j'ai dit que c'était un dessin contrasté. Alors, je connaissais pas cette scène. Enfin, si je connaissais, j'avais vu un peu le Bardieu français, que j'avais feuilleté. Je connaissais un petit peu. Je savais qu'il avait un trait assez particulier. Moi, j'ai trouvé son trait très contrasté. Il y a un travail sur la couleur qui est très, très... franc, très violent, il y a des contrastes très forts, un jeu sur l'ambiance. On a l'impression qu'en fait, que c'est peint, déjà, je pense que c'est peint. On a l'impression qu'il travaille directement avec la couleur pour construire son dessin, pour construire sa planche. On n'a pas l'impression qu'il va tracer les contours des personnages pour les positionner avant, on a l'impression qu'il pose vraiment ses aplats, ses dessins au milieu.
Alors pour rebondir là-dessus, justement, moi j'ai eu l'impression de quelque chose de collé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il prépare des morceaux de dessin à part et qu'il vient les coller, les superposer. Les personnages, on a l'impression qu'ils sont collés sur la trame de fond, notamment parce qu'il y a des gros traits de contour. Ça donne un petit peu de relief d'ailleurs à tout ça.
Ouais.
Et ça accentue un petit peu le côté cru, l'aspect direct de l'histoire et du dessin.
En tout cas, moi, j'ai trouvé les couleurs. Enfin, c'est un style assez particulier. Je connais. Enfin, je peux même pas dire à quoi ça ressemble parce que je crois que je connais rien qui ressemble au style de Stassen. Et c'est vraiment un travail, moi, sur la couleur qui m'a bluffé, quoi. Sur quand il va te dessiner une couleur de peau et qu'il va s'amuser à mettre les ombres, par exemple, tu vas avoir vraiment un tranchant entre la couleur de l'ombre et la couleur du visage qui va créer ce relief. Moi, c'est un dessin qui m'a beaucoup plu. Et puis en plus, il a une façon de raconter, une narration, de découper ses planches qui est assez efficace. Le découpage en chapitres aussi, mais là, ça vient peut-être plus du scénariste, est très, très bien foutu. Tio.
C'est moi.
Oui.
Non, écoute, j'aurais pas grand chose à rajouter. Je pense que vous avez vachement bien parlé tous les deux. J'aurais rien de plus à me mettre là-dedans. C'est, donc, ouais, moi, c'était... c'est un bon dessin pour bien illustrer. Point.
Ok. Bon, bah, on en a fini avec L'île au trésor.
Jingle.
Beauté, tome 2. Nous reprenons les aventures de Beauté, scénarisé par Hubert et dessiné par les Kerascoët, parce qu'ils sont deux, toujours. Et qui donc, Beauté a épousé le roi. Elle est trop contente, mais elle est toujours trop con, en fait.
Le spoil.
C'était le Thomas,
ça va. C'était le Thomas, ça va, spoiler.
Et en gros, elle décide que son peuple doit être super heureux. Et donc le roi, en fait, parce qu'il peut pas dire non à cette femme qui est d'une telle beauté, en gros, une fée l'a rendue belle aux yeux des autres. Il l'a pas rendue belle. Belle aux yeux des autres. Elle est toujours moche, en fait, mais les gens la voient belle. Et la voient surtout irrésistible. Tous les hommes tombent sous son charme instantanément. Et le roi ne peut rien lui refuser. Et donc, en gros, il s'arrange pour que, à chaque fois qu'elle se balade en ville, on camoufle les quartiers pourris pour qu'elle ne les voit pas. Et Beauté commence à se poser des questions, à s'intriguer, à essayer de savoir ce qui se passe. En plus, son ex, qu'elle a envoyé chercher des tonnes d'or... Oui, Jean Eudes, je crois, ou Eudes. Ouais. Ouais, enfin bon. Qu'elle a envoyé chercher des tonnes d'or, a fait des pillages de tombes pour ramener le plus d'argent possible, le plus vite possible, pour la satisfaire. Et il commence à péter un câble, il devient fou quand il se rend compte qu'elle s'est mariée.
Voilà, il revient et elle l'a pas attendu, elle est partie avec un autre, quoi.
Voilà. Et il devient complètement fou parce que sa beauté, justement, est tellement ensorcelante que lui est pris. Enfin, un côté très intéressant sur le personnage qui est pris entre l'amour et la haine en même temps parce qu'il ne peut pas lui résister, il ne sait pas quoi faire. Et toujours les gens qui se déchirent dans tous les sens. Beauté se fait une cour avec les plus belles femmes du royaume, mais qui ne peuvent rivaliser avec la sienne. Les chevaliers vont tous crever les uns après les autres pour elle, parce qu'il y a une guerre, hein, toujours.
Oui, parce que si elle les envoie taper Jean-Eudes.
Oui, aussi Jean-Eudes.
Jean-Eudes ou Eudes, je crois. Je crois que c'est Eudes. Hein.
Ouais, Eudes, donc, qui est le super chevalier de la mort. À côté de ça, il y a c'est la sœur du roi.
C'est la sœur du roi, ouais.
La sœur du roi, qui, elle, est moche, mais très intelligente, qui essaie de, elle, s'impliquer dans les affaires du royaume. Et Beauté, voyant qu'il y a une femme qui s'implique dans les affaires du royaume, elle décide de s'en occuper aussi. Et, sauf que Beauté...
Dès qu'elle dit un truc, tout le monde dit oui.
Elle n'est pas gâtée, non. Bah, elle n'est pas gâtée, en fait, hein, cette femme.
C'est une femme simple du peuple. Hein. Elle a essayé de s'intéresser à la politique alors qu'elle n'est absolument pas formée à tout ça, au tenant aux aboutissants de ce genre de discussion. Donc,
Et en fait, c'est une histoire très riche. Il se passe encore plein de choses. On ne peut peut-être pas tout révéler. Parce que c'est une histoire... Enfin, pour moi, c'est un thème où il se passe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par le dessin, parce que c'est un dessin très particulier, les Carrascoët. Alors en plus, on va pas être d'accord, parce que je pense au niveau du dessin. Moi, je trouve qu'ils utilisent un style qui m'a fait vraiment penser, donc c'est mon mot, c'est les vieux contes. Souvenez-vous de ces vieux contes des années 70, les bouquins d'enfants que vous pouviez avoir avec des contes, ceux qui étaient dans ces teintes de sépia, d'ocre, parce qu'ils n'avaient pas assez de couleurs, c'était en bichromie, etc. Avec un trait, souviens-toi de ton roule-galette où tu avais la moitié des pages en couleur et la moitié des pages...
Je veux plus roule-galette, je veux plus roule-galette.
Voilà. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ce ton-là, mais avec... ce modernisme dans la narration, dans le trait derrière, mais ces teintes de couleurs très particulières qui m'ont vraiment fait penser à ces vieux contes que je pouvais lire quand j'étais môme, dans les albums que je lisais étant môme. À vous.
Moi, j'ai mis grotesque, en fait, pour le dessin, dans le sens... C'est voulu et ça colle bien au truc, hein, mais ça fait mal dessiner, ça fait des traits qui sont gros, grossiers... voilà, et puis bah, écoute, sur le premier tome déjà j'avais pas trouvé ça super joli, je crois, et je crois que j'ai pas changé d'avis sur le deuxième.
Moi, en fait, je trouve ça super joli. C'est pour ça qu'on est
sur Jolie Ténèbres. Moi, il y avait voilà un travail que j'avais beaucoup aimé, mais sur Beauté, c'est que ça pique un peu, quoi.
Ils se sont vraiment adaptés au sujet, pour le coup.
C'est exactement ça. Moi, je suis entre vous deux. Je trouve le dessin pas forcément très esthétique.
Non, t'es en face de moi et à côté de, tu vois. Oui, donc vas-y, continue.
On va la reprendre. Donc je suis un peu entre vous deux, on va dire ça comme ça, quand même, malgré tout. Donc un peu comme Mathieu, j'adhère pas particulièrement au dessin. Par contre, je trouve qu'il sert très bien le sujet. Moi, j'ai mis anguleux parce qu'effectivement, c'est ce côté, on y va rapidement pour faire le dessin, et c'est un peu comme ça qu'on aborde l'histoire, quoi. On suit ces aventures-là assez rapidement parce qu'il se passe quand même une tonne de choses dans ce tome 2. C'est extrêmement dense. Donc le dessin, il respecte très bien l'ambiance.
Moi, je trouve que quand il dessine Beauté vue par les autres, le dessin est vraiment beau. Beauté est vraiment représentée, elle est belle, le dessin est superbe.
Ben, c'est les seuls moments où on va avoir un dessin qui est un petit peu plus joli. Et où il arrondit ses lignes, mais le reste du temps, on est sur du très très basique. Hein.
Parce qu'en fait, du coup, on va avoir un peu de finesse dans ces moments-là. Ouais. Mais sinon, tout le reste,
la couverture est superbe, par exemple. La scène, il y a une scène érotique qui est vraiment très jolie.
Quand elle est avec son chevalier, là, ouais.
Voilà, c'est une scène érotique. Donc c'est de l'érotisme très soft. On est quand même dans une série qui est publiée dans Spirou, hein. Donc c'est de l'érotisme très soft.
Enfin, un petit Spirou.
Oui, petit Spirou est beaucoup plus cru, on va dire. Mais quand même, moi j'ai trouvé ça. Enfin, on est loin du puritanisme auquel on pourrait s'attendre de quelque chose qui va être publié dans ce genre de magazine. Voilà. Le scénario.
Grinçant.
Oh, j'ai mis dérangeant. On est un peu dans l'idée.
Gentiment méchant.
Gentil.
C'est l'idée du conte.
C'est cruel.
Effectivement, on est assez cruel, soit au niveau du personnage principal, soit au niveau des personnages secondaires. Là, pour le coup, il y a un peu des deux. C'est ça. C'est le conte. On est dans une ambiance coucou, il y a des fées, il y a machin, il y a bidule, et puis on se prend des coups de hache toutes les 5 minutes. Quoi.
Tout le monde veut bien faire, mais. Parce que tout le monde veut bien faire. Il n'y a pas vraiment de méchants dans cette série. Il n'y a que des gens qui sont trompés, qui sont contraints, qui.
La seule vraie méchante, ça reste la fée Mab.
Oui.
Qui apparaît comme ça par touche tout au long et qui, elle, sème en permanence la discorde.
Mais c'est les fées.
Mais c'est le principe des fées.
Les fées des contes sont jamais gentilles.
J'aurais dit quand même que Beauté, sous son côté naïf et qui ne pense à aucune conséquence, a quand même un côté qui est une méchanceté assez rare.
Oui, mais une méchanceté bête.
C'est de la bêtise.
Oui.
C'est de la bêtise.
C'est de la bêtise. Elle réagit au quart de tour en suivant son instinct, sans.
Ça me rappelle un hyper-président.
Oh là là.
Oh, pas de politique, ça va.
Donc, ouais, non, je trouve que c'est. En tout cas, moi, le scénario m'a. Je me suis retrouvé tout du long à me faire. Oh putain. Oh non, c'est pas possible. Elle va pas faire ça. Ah si. Ah non, mais c'est.
Ça, par contre, de ce côté-là, je te rejoins tout à fait sur le côté conte où j'ai l'impression de me retrouver comme un gosse quand tu vois, on me raconter les histoires et tu sais, où tu sais, le prince arrive et tu fais oh non, 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 il va rencontrer le dragon et tout. Voilà, tu vois, tu vis le truc, quoi. C'est exactement pareil.
Sauf que là, c'est le petit chaperon rouge gris, mais pas Perrault, quoi. C'est, ouais. C'est celui où à la fin, ils ouvrent pas le ventre du loup pour sauver le petit chaperon rouge. Voilà.
On n'est pas encore là.
On n'est pas encore là, mais en tout cas, ça c'est comme ça que j'ai l'impression que c'est vers ça que ça tombe. La marche du crabe.
Le tome 2.
Il est trop bien.
Qui s'intitule
La révolution des crabes.
Voilà. Bon, ben je crois que tout est dit.
Non, c'est l'Empire des crabes.
L'Empire, la révolution sera le troisième.
Ouais.
Pom, 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 pom. Tu vois, t'as plus besoin de jingle en fait.
Ouais, c'est vrai.
Dans la boîte à rythme à côté.
Mon autre beatbox là. Isaac, la beatbox. Isaac. Quoi? Mais à quoi vous avez pensé tous? À quoi vous avez pensé? Vous trouvez que ma blague n'était pas heureuse? Donc, bravo. Reprenons donc. Désolé pour les privés de joke. On prend sur la marge du crabe. Que nous raconte ce tome? Résumé rapide du tome 1.
Résumé rapide du tome 1. Nous avons nos crabes qui vont tout droit.
Les crabes carrés.
Qui vont de gauche à droite et de gauche à droite et ils peuvent pas tourner. Et forcément, tous les autres se foutent de leur gueule parce que bon, ils sont pas doués quoi. Mais il est arrivé un phénomène terrible. Énorme à la fin du tome 1. Un crabe carré a tourné
pour esquiver accessoirement un bateau qui coulait. Enfin,
oui, moi, parce à sa qu'en place, en parallèle, on a toute une histoire de reporter qui veut faire un reportage sur les crabes carrés de Gironde parce qu'il s'y intéresse.
Et que l'autre et que son directeur veut faire lui un reportage sur la marée noire.
La marée noire, Greenpeace. Du coup, il y a Greenpeace qui est en pleine action au milieu et tout.
Donc tome 2, on va poursuivre l'histoire.
Et il a découvert qu'en fait, surtout, s'il ne tournait pas, c'est...
Parce qu'ils étaient trop cons.
Voilà, c'est ça qui est important.
Voilà, donc là, on arrive dans le tome 2. Notre crabe qui a tourné essaie de se faire discret parce que forcément...
Son nom, c'est Soleil, hein, c'est ça?
Ouais.
Oui, alors les noms des crabes dépendent de ce qu'ils rencontrent sur leur route. Comme ils ont une trajectoire rectiligne, ils peuvent aller que de gauche à droite, vraiment sur une ligne fixe. Il y en a un qui s'appelle guitare parce que en fait un truc qui bloque sa trajectoire c'est la guitare, il peut pas aller plus loin que la guitare en fait. Et tout au long du truc ils ont tous des noms plus débiles les uns que les autres les crabes. J'ai beaucoup aimé. Je t'en prie.
Donc Soleil, lui il va essayer de se faire discret parce qu'il s'aperçoit très très vite que il y a d'autres crabes carrés qui trouvent que c'est pas normal qu'on tourne.
Et oui.
Et donc ils vont rentrer.
Critique.
C'est ça. Voilà, on va rentrer dans une sorte de conflit. Quasi religieux et mystique sur le rôle du fait qu'il puisse tourner ou pas.
Entre le côté politique, c'est est-ce que les crabes carrés doivent tourner? Est-ce qu'ils doivent suivre la ligne? Est-ce qu'ils ont le droit de monter sur le dos les uns des autres pour réussir à changer leur trajectoire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui suit le credo ou pas?
C'est ça, on est quasiment dans le dogme. Hein,
c'est... Ouais, c'est ça. Et en parallèle, on a toujours nos journalistes, parce que, en gros, il y a eu un bateau qui s'est échoué. C'est le Rainbow Warrior qui a coulé.
Oui.
C'est le Rainbow Warrior qui a coulé. C'est le Rainbow Warrior qui l'a évité. Et la caméra des reporters était tombée dans l'eau et a tout filmé. Et eux, ils ont vu le crabe carré qui a tourné. Et ils essayent de
reproduire l'expérience.
Alors oui, du coup, c'est un peu les expériences malheureuses.
Parce que, et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très con parce qu'on n'y a pas pensé, ils pensent au désastre écologique du fait que les crabes carrés puissent tourner. Parce que si les crabes carrés tournent, ils vont pouvoir se reproduire beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on voit les tentatives de séduction des crabes carrés, c'est très drôle.
Ouais, mais ils ont un peu 2000 ans d'évolution à rattraper aussi. Hein.
Et en parallèle, Soleil va commencer à suivre une quête initiatique.
Oui, parce que lui, il va trouver la grotte secrète.
Tout
au fond. Au fond d'un gouffre.
Mais un gouffre, waouh.
Et là, on va avoir même l'histoire de l'évolution. Racontée par... en fait, c'est le crabe carré qui a dirigé le monde à un moment. Quoi.
Le roi crabe.
Le roi crabe, mais qui n'a pas été super intelligent. Parce que du coup, lui, n'a pas évolué.
Enfin bon, il y a un propos vraiment très très vaste. Moi, j'ai trouvé ça bon, très drôle, je veux dire... On peut le dire.
Et au niveau du scénar, t'as dit quoi?
Alors, on va parler du dessin quand même d'abord. On revient sur le scénar.
Scénar,
tu vois?
Ouais, allez, scénar. Bon,
d'accord. Si tu veux, scénar, c'est bien ce que c'est toi. Moi, j'ai mis rectitude.
Rectitude. Moi, j'ai mis no pasaran.
Et pour moi, c'est Darwin le Rouge à la plage.
Darwin le Rouge à la plage. Joli. C'est. Bon.
Le rouge. Bah, le rouge, on est chez les révolutionnaires. On a une forme de révolution là-dedans. Vous l'avez dit vous-même. Hein. Donc, Darwin le Rouge à la plage.
D'ailleurs, tu notes que le roi crabe était rouge.
Ouais.
Bon, au niveau du scénario, je trouve ça intéressant parce que ça pose plein de questions qui peuvent sembler connes sur le dogme, sur est-ce qu'on fait les choses parce qu'on nous a dit qu'on
a toujours fait comme ça.
Parce qu'on a toujours fait comme ça. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on doit
évoluer? Le changement fait peur. Hein.
Est-ce que le changement est une bonne chose? Parce que le coût du problème écologique que posent les reporters est quand même, d'un point de vue de l'équilibre écologique, c'est pas con, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est super rigolo, en plus, derrière. Enfin, moi, le scénario, c'est bourré de petites trouvailles fun, très drôle.
Ça pose de vraies questions dans une ambiance très bon enfant.
Ben, je suis à 3e roue du carrosse, j'ai rien d'autre à rajouter. Vous êtes trop bons, les gars.
Trop facile. Le dessin, j'ai mis que c'était une ambiance très pub 70s. Je sais pas si vous vous souvenez de ces pubs, justement, pour aller à la plage, Biarritz, machin chose, avec ces couleurs.
Arrête de dire 70s. Moi, j'ai vécu 3 ans dans les 70s, quoi. Et à 3 ans, je suis désolé, mais je regardais pas les pubs 70s, quoi.
Moi, j'ai revu de ces vieilles pubs, régulièrement, tu sais, dans les bateaux,
souvenez-vous, les contes des 70s. Ouais, mais bon, on n'y était pas, quoi.
Bah, t'as jamais vécu l'époque de Napoléon, tu vois à peu près qui c'est, quand même.
Oui, mais bon, là, je suis désolé, mais moi, les pubs des 70, je m'en rappelle pas non plus spécialement. Tu vois.
Ouais, excuse-moi d'avoir une culture du design.
Excuse-nous d'avoir une culture pub.
Ouais.
J'ai déjà de l'affaire, juste avant.
Donc, Arthur de Pince utilise un style qui est beaucoup plus stylisé, justement, que ce qu'il peut utiliser sur un Zombielennium, par exemple, qui a un côté un peu réaliste, un peu péchu. Là, il joue beaucoup sur des effets de contraste, de forme, par exemple, mettre... C'est les langoustes ou est-ce ça, hein, qui sont en blanc. À un moment, on les voit totalement en blanc. C'est des ombres blanches qui commencent à attaquer les trucs. On est vraiment dans les formes géométriques, un côté stylistique très fort. En plus, la BD se passe dans les années 70. Donc, dès que tu vois un humain, il a un look... Waouh, la classe de l'époque, quoi. Et il y a un côté très stylisé qui va très, très bien avec la thématique. Il y a quelques trucs parfois surprenants au niveau de ce que ça rappelle. Par exemple, quand on voit le crabe qui est pour la rectitude et compagnie, qui commence à dire qu'ils doivent tous se relier et qu'on voit tous les crabes qui font un geste et on a une sorte de dessin très stylisé qui m'a vraiment fait penser à de l'affiche de propagande. Il y a vraiment plein de clins d'œil graphiques. On voit qu'Arthur de Pince est un graphiste qui travaille dans la com et qui s'éclate à jouer avec tous les codes qu'il y a autour de ça.
Ouais. Moi, j'avais dit animation, en fait. Pour moi, ça me fait vraiment penser à un dessin qui pourrait être qui pourrait être animé pour en faire un dessin animé, parce que c'est vraiment... T'as des plans,
c'était
contre-plans...
C'était ouais, la base,
c'est...
à la base.
Oui, ça devrait.
Ouais, il faudrait finir son film. Je sais pas s'il pourrait mettre toute l'histoire dans un film maintenant, parce que pour le coup, l'histoire, elle est costaud.
Moi, j'avais marqué minimaliste parce qu'effectivement, on est sur. Il veut pas trop en mettre parce que déjà dans ce qu'il fait, alors qu'il y a pas grand chose, hein, sur certaines zones, ça donne quand même à réfléchir. Il y a plein de petits clins d'œil comme tu disais, Pied. Et en fait, j'aurais envie de dire que effectivement, revenir plutôt sur des histoires d'affiches publicitaires, parce qu'effectivement, ça, 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 C'est quelque chose qui travaillait derrière, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est effectivement ça, les affiches publicitaires.
Celles que tu vois sur le bateau quand tu vas en Corse, genre les pubs pour le ferry et compagnie.
C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un vrai travail de pub. Enfin, moi, j'ai beaucoup adhéré, hein. Que ce soit au contenu ou au dessin, c'est absolument génial.
Beaucoup de plaisir. Ok, donc la marche du crabe, c'est chez Noctambule, donc Soleil, par Arthur de Pince, bande dessinée, nous qu'on aime bien, on attend la suite avec impatience.
Blotch! Page! Allez DJ Isaac, envoie le son!
On est vraiment rien sans elle, qu'on soit
Isaac, stop, Isaac, hein? tu sors, non, c'est pas ça, tu sors.
Pardon.
Attends.
Au revoir.
Nous allons vous parler de Pour la vie, pas de Plus belle la vie.
Juste pour info, quand même, il est capable de faire le générique sans avoir révisé le texte, il le connaît. C'est grave.
C'est pour ça qu'on ne l'associe pas à cette place page car il n'a pas lu la BD.
J'ai beaucoup souffert quand j'étais petit, alors j'ai des excuses.
Nous allons parler de Pour la vie, de Goupil, Jackie Goupil et Claudio Stassi. Et avant de commencer à vous en parler, nous allons vous passer une interview qui a été faite lors du Festival d'Angoulême avec Claudio Stassi, qui est l'interview la plus bordélique du monde, car il faut savoir que Claudio
Stassi... C'est une interview à la rame.
Il faut savoir que Claudio Stassi, quand j'ai vu avec les attachés de presse, on m'a dit que ouais, il parle français, pas de souci. Eh bien non, il ne parle pas français. Il parle très très bien italien car il est italien. Il parle très bien espagnol car il vit à Barcelone.
Il parle français comme une vache espagnole d'origine italienne. C'est voilà. Pratique ça.
C'est ça.
L'interview a donc été faite en roumain et sous-titrée en tchétchène.
L'anglais c'est pas trop son truc non plus et le français il avait des bases. Donc j'ai essayé de faire une interview pas trop mauvaise. Vous allez voir, c'est un
pourquoi
peu bordélique.
Pourquoi t'as pas testé en Corse aussi? Peut-être c'était faisable. Trouver tiens.
Vous allez voir, ça va être un petit peu bordélique, mais on va bien rigoler. Donc, pour la vie, interview de Claudio Stassi. Ça va être sans doute l'interview la plus difficile, la plus à l'arrache du festival, car j'interview Claudio Stassi, l'auteur de « C'est pour ça que je m'appelle Giovanni » et de « Pour la vie » qui vient de sortir, qu'il a dessiné pour Goupil. Il ne parle pas très bien anglais, je ne parle pas très bien anglais, ça va être très sportif. Bonjour Claudio.
Bonjour.
Un premier mot en français. First word in French, yes. It's easy for now. Ok. C'est pour ça que je m'appelle Giovanni, vous utilisez deux styles graphiques différents pour le personnage principal. Vous êtes beaucoup inspiré des mangas pour représenter l'enfant, Giovanni, alors que votre style est plus réaliste quand il s'agit des adultes. Pourquoi avoir choisi ce traitement pour vos personnages?
Manga inspiration for the kid, for Giovanni, and it's more realistic for all the adults. Why do you choose this treatment for your character?
It's very difficult job in this comics because
le travail sur cette BD a été très difficile car l'histoire se passe à deux moments différents. J'ai pensé que ce serait plus facile pour le lecteur de s'y retrouver dans la continuité temporelle en utilisant deux styles différents, notamment en changeant les couleurs.
For the lector, it's very small. Facile. The continuity with different style, the job, color with color and with grease, and the decision is for this is for the lector.
The kid is a very with big eyes.
L'enfant a de grands yeux. C'est très étrange quand on le compare avec son père, qu'il y a une coupure stylistique entre les deux.
The style is strange when you saw them abroad. It's a very strange.
Yes, because my idea. Is the create synthetic personage in the
Mon idée était de créer un personnage synthétique face au petit Giovanni. Cet homme n'est pas Giovanni, il représente tous les hommes de Sicile, de Palerme, d'Italie et d'Europe.
No, is Giovanni. This guy is are all the guys in the Palermo, in the Sicilia, in the Italia, in the Europa.
Okay. I search my question. It's very educational for comics because I don't know that story. I heard about the attentat.
C'est une BD qui nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire de Palerme. J'avais entendu parler de cet attentat, de l'explosion de cette voiture quand j'étais petit, mais je ne connaissais pas toute l'histoire de Giovanni. Était-ce important pour vous de raconter cette histoire essentielle pour la Sicile parce que vous êtes originaire de Palerme?
For speaking about this very important story for Sicilia.
Yes, all my story are autobiographic.
Oui, toutes mes histoires sont autobiographiques. Elles parlent toutes de la Sicile et évoquent les relations difficiles entre les personnages. J'aime les histoires fortes qui sont ancrées dans l'histoire. Quand je parle de la mafia dans mes BD, Giovanni ou Brancaccio, je parle en fait de moi, de mon histoire. Je suis né en Sicile, j'y ai vécu, même si aujourd'hui j'habite à Barcelone en Espagne.
I love the history, the strong history, the art history, no? Okay, and when I speak to mafia and my comic, when the Giovanni or the Brancaccio, I speak to me. It's the reflex to my personality, my history. I born in Sicily. I was living in Sicily. Now I live in Barcelona and Spain.
I visit Sicilia last year. I visit Sicilia last year, and I read Giovanni just after, and I'm very sad because there's a lot of place. I regret.
J'ai visité la Sicile l'année dernière et j'ai lu Giovanni juste après. Je suis un peu triste car il y a de nombreux endroits que je ne regrette de ne pas avoir visité à Palerme, comme l'arbre Falcone, qui est un endroit symbolique de la ville. Est-ce important pour vous d'évoquer les lieux précis de Sicile dans vos albums?
Precise location in Sicilia.
It's very important. To building, to place, it's important because in Giovanni.
Oui, c'est très important. Dans Giovanni, il y a un tour opérateur qui. Les endroits sont très importants. Les rues, les places, les immeubles, tout existe vraiment.
And this tour, the father speak the history to Giovanni Falcone, and in this. This situation is very, very important. The street, the place, the building, it's real, real.
Okay, for your next story with Goupil,
Pour votre livre suivant, Pour la vie, vous avez collaboré avec Jackie Goupil, qui est un auteur français. Avez-vous eu recours à un traducteur?
You work with a translator for the story?
We go Google Translate. with the Google Translate. This is perfect. It's really perfect.
Google Translate. C'est parfait vraiment pour les petits problèmes avec les mots. Je parle anglais avec mes amis, mais c'est une invention fantastique.
Yes. I speak with my friend, speak English more. And it's very, very okay. It's the invasion, it's a fantastic invasion.
The story is about a couple of old person who suicide, and you count the story about those.
Dans cet album, vous racontez l'histoire d'un couple de personnes âgées qui se suicident. Vous êtes inspiré d'une histoire vraie?
And this is the idea to Jackie. Different story, different time for this story. The history
C'est l'idée de Jackie Goupil. Il y a différents temps dans cette histoire, la situation initiale et la finale. Comme ça, le lecteur est préparé à l'étrangeté de notre histoire et de la narration. C'est une très bonne histoire. C'est Jackie qui a eu l'idée d'utiliser plusieurs temps narratifs.
With that strange hard history and the narration comics, it's very, very, very good. The idea to Jackie for the different narration time.
How do you? Do you meet Goupil and,
comment avez-vous rencontré Goupil? Est-ce votre premier travail pour un éditeur français?
With Goupil, with Jackie, yes. I publishing with Casterman Brancaccio.
J'ai publié Brancaccio chez Casterman et mon éditrice a adoré cette BD. Jackie a écrit pour la vie et mon éditrice m'a envoyé ses textes. Il a fait un travail fantastique sur cette BD.
Jackie, writer pour la vie, et she sent me the write, and I see, yeah, yes, it's okay, it's fantastic history. I job in this comics.
Do you have other projects?
Avez-vous d'autres projets de BD italiennes, espagnoles ou françaises?
For French comics?
Yes. Now I finish a comics for Rizzoli in Italy.
Je suis en train de finir une BD pour Rizzoli en Italie et aussi une en espagnol qui s'appelle Banda Stern. J'espère que cette BD sera publiée en France, mais je ne peux pas vous l'assurer.
And this comics publishing in French, but now I can send this news.
Okay. What is the last?
Quelle est la dernière BD que vous avez vraiment aimée?
Blankets, de Greg Thompson.
Blankets de Greg Thompson, c'est vraiment fantastique.
It's a big comic, but I read this comic in 2 hours because it's really fantastic, really fantastic.
Have you read?
Vous avez lu Habibi, sa dernière BD?
Have you read Habibi? His last comics?
Ah, oui. No, Habibi. No, Habibi. Habibi.
Oui, en fait, j'ai préféré Habibi, pas Blankets. Sa dernière BD, Habibi, est fantastique.
The last is fantastic. Habibi.
Merci à Audrey pour son travail de traduction qui était délicat. Vous remarquerez aussi qu'il y a quelques blancs dans la traduction parce que c'était pas toujours facile. En tout cas, merci à elle qui nous a fait un super boulot sur cette traduction.
On pourra l'embaucher, je pense.
On pourra l'embaucher, ouais. Donc, pour la vie. Alors, revenons vite fait sur les auteurs. Donc, Claudio Stassi, on a déjà parlé de lui avec « C'est pour ça que je m'appelle Giovanni », qu'on avait bien aimé. Jackie Goupil. Alors, Jackie Goupil, c'est un auteur assez surprenant. Il s'est fait connaître en faisant « L'épée de cristal » avec Chris, donc la BD qui a un peu révélé Chris. Il avait enchaîné avec Laurette et Harpy aussi, un auteur très très qui avait fait de l'héroïque fantasy classique. Et puis après, on n'a plus trop entendu parler. Il a continué à bosser pour Vent d'Ouest. Il a été directeur de collection. Et directeur de collection, il a travaillé sur tous les guides en BD. Donc c'est pas forcément c'est la BD de supermarché, hein, un truc un petit peu alimentaire. C'est l'impression que ça me donne en tout cas.
Bah oui, mais il faut bien manger, quoi.
Voilà. D'ailleurs, on parlera bientôt d'un des guides en question, parce que on a offert un.
Ah bon? Ouais, on t'a offert un guide?
Ouais, un des guides comme ça, sur les jeunes parents, un guide de survie de jeunes parents. Donc, voilà. Et puis, ailleurs que chez Vent d'Ouest, il nous sort Pour la vie, qui est très loin de l'héroïque fantasy.
Pour le coup.
Voilà. Très loin de l'alimentaire. Et qui est donc une bande dessinée qui nous raconte la vie de Edith et Fernand, qui sont un couple qui sont à la
dans une maison de retraite
qui s'appelle les Coquelicots, Et dès le départ, on sait ce qui se passe. Ils se sont jetés sous un train.
C'est le début.
C'est le début. Et ensuite, bah, on commence à avoir un petit peu un retour. Où on va avoir des flashbacks. On va suivre un peu les souvenirs pour savoir comment ils se sont rencontrés, avoir toute leur histoire et savoir pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se jeter sous ce train. Et on va avoir un peu toute leur vie qui va être ponctuée par les chansons d'Edith Piaf. Qui était une auteure qu'ils aimaient beaucoup. Et puis aussi un petit côté d'histoire. On va voir un peu l'histoire qui évolue derrière.
Oui, t'allais dire... Oui, parce qu'un coup, tu me reparles. Je comprends pourquoi est-ce que j'ai ce mot-là qui est venu pour le scénario.
Vas-y, tu as dit quel mot?
Ah ben, j'ai dit hymne à l'amour, en fait. Et voilà.
Hymne à l'amour, oui, logique.
Et voilà, logique. Et en fait, tu vois, je ne comprenais pas pourquoi c'était... Voilà. Mais c'est venu, c'est pour ça.
Moi, j'ai mis flux de souvenirs. Le scénario est vraiment construit...
Je te coupe juste, ouais, j'avais mis souvenirs et je voulais un truc qui soit plus... Ben ouais, tu vois, on a les mêmes mots, finalement. Souvenirs, c'est hymne à l'amour.
Moi, ce qui m'a marqué, en dehors du côté des émotions qu'on peut avoir en lisant cette BD, qui est vraiment très émouvante, c'est le côté, au niveau de la façon dont c'est construit. On va vraiment avancer d'un souvenir à l'autre. On a l'impression que les flashbacks sont pas marqués clairement. On a l'impression qu'on va par les cadres qui changent. On passe d'un cadre carré pour le contemporain à un cadre rond pour tout ce qui est souvenir. Mais on se balade d'un souvenir à l'autre en jouant dans le temps. D'un coup, on va reculer un peu plus. On voit leur arriver dans la maison de retraite. Puis on part en arrière.
Et pourtant, chaque souvenir... s'intègre parfaitement à l'histoire. On revient, on fait un flashback juste pour le flashback. C'est que le flashback, il a une raison d'être par rapport à ce qui se passe dans le contemporain, quoi.
C'est très 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 bien construit. C'est très fluide. On a pas l'impression d'avoir des coupures, en fait.
Non.
En théorie, souvent les flashbacks, on a une coupure narrative qui est un peu forte. Et là, c'est tout fluide. On a vraiment un flux. On suit des pensées, on suit une histoire, comme quand on la raconterait. Et c'est très très propre. Moi, j'ai trouvé ça très très beau.
C'est d'une construction, c'est machiavélique, quoi. C'est exceptionnel.
Et au niveau du thème, bon, la raison, c'est moi, voilà, c'est une phrase qui m'a choqué, c'est quand, enfin, qui m'a marqué, c'est quand le mari dit, Fernand dit, parfois, je voudrais mourir avant ma femme. Ce qui peut paraître égoïste, c'est pour ne pas avoir à vivre sans elle. On a toute une réflexion sur la mort, le droit à mourir quand on a envie de mourir. Ça se pose jamais en moralisateur, ça nous dit jamais ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tout ce que ça nous fait, c'est nous raconter cette histoire d'amour très touchante. Tu es sans voix ?
Ouais, non, je suis sans voix. Non, mais c'est vrai que moi, je suis resté sur le bouquin, je l'ai lu. Tu me l'as passé encore une fois, voilà, il était posé là, j'ai pas accroché sur la couve, quoi, hein.
C'est les couvertures de la collection Écriture de chez Casterman qui sont des couvertures très très blanches, simples.
Ouais, voilà, il y a pas de fioritures, quoi, mais quand j'ai plongé dedans, je l'ai dévoré, en fait, d'un bout à l'autre, et je suis arrivé au bout avec c'est la petite boule dans le ventre, presque, voilà, la larme au coin de l'œil, parce que bah du coup tu le refermes et tu fais waouh, c'est beau, quoi. C'est une histoire qui est magnifiquement écrite. Il y a beaucoup d'émotions dedans. Et je pense que si on a, enfin moi, si ça m'a déclenché autant d'émotions, c'est justement parce que c'est presque parfait, quoi. Il y a tant d'un point de vue de l'écriture, de la construction du scénario, et aussi du dessin qui finalement se prête vachement bien à ça, quoi.
Sur le dessin, j'ai mis vieux neuf comme mot. Parce qu'on a un style assez moderne, Stas, il y a un style assez moderne. On revoit encore un peu son influence manga, même si elle est moins marquée que dans un. C'est pour ça que je m'appelle Giovanni. Mais il y a un côté ancien qu'il a réussi à bien retranscrire pour montrer les ambiances, les époques. Un peu hors du temps aussi, quand on est dans la maison de retraite. Ce qui joue aussi sur cette fluidité du passage d'une époque à l'autre. Il a un style, donc c'est du noir et blanc, un noir et blanc bien travaillé, avec des textures, un travail sur le fond, sur les ambiances, qui est très très propre, très bien foutu. Et c'est bourré de petits clins d'œil rigolos.
Et tous les petits vieux dans la maison de retraite sont excellents, quoi.
Les petits vieux sont super rigolos, ils ont tous un caractère, avec un clin d'œil à Gaston qui est génial. Ils ont une mademoiselle Jeanne à l'hospice qui raconte qu'elle a travaillé dans une maison d'édition avec son Gaston qu'elle aimait. Et puis tout le côté historique aussi qui est très bien foutu. À la fin d'ailleurs du bouquin, on a ils nous replacent un petit peu les différents événements, ils nous remettent un peu du contexte pour qu'on sache où se situer dans le bouquin. Je crois qu'on va faire une splash page assez courte parce qu'en fait on n'a pas grand chose à dire à part que moi j'ai beaucoup aimé quoi.
Bah, à part dire que c'est trop beau et que c'est un très bon bouquin à lire, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, je crois.
Voilà. Alors ne l'offrez pas à vos parents, ça pourrait leur donner des idées.
Bah, disons que si je peux vieillir comme eux, je trouve que ce serait quand même génial.
Faut pas avoir d'attache non plus. Faut voir qu'eux n'ont pas d'enfants, n'ont pas.
Oui, ils ont pas.
Le passage sur les enfants est aussi très très dur et très émouvant. Peut-être parce qu'on est jeune père ou futur père. C'est une très très belle histoire. Enfin, moi, je vous la recommande. Vraiment, c'est très très beau.
Bah, clairement, j'aurais jamais acheté ça en fait. J'aurais sans doute passé 50 fois à côté sans l'acheter et c'est une super découverte.
Alors moi, je l'ai acheté parce que je savais que j'allais interviewer Claudio Stassi et je me suis dit, bah tiens, je vais acheter son dernier bouquin pour avoir un truc de quoi parler avec lui et là, je regrette pas.
Et là, tu prends une claque quoi.
Voilà. Très très bonne bande dessinée qu'on vous recommande fortement.
Online!
Pour le online, on va vous parler d'un projet que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle le pavé numérique. Alors, sous-titré Diffusion numérique au profit des auteurs. Alors, le pavé numérique, donc, c'est un site qui diffuse des œuvres en numérique, donc des bandes dessinées, mais pas que, avec l'idée d'être un service plus qu'un éditeur. C'est-à-dire que entre 90 et 95% des sommes qu'ils reçoivent sont redistribuées aux auteurs. Alors, il y a une formule d'abonnement, même si on peut lire les dernières histoires gratuitement. C'est-à-dire qu'avec l'abonnement, on va pouvoir accéder aux archives et à tout ce qui a été fait auparavant. L'abonnement est pas très très gros, c'est du 3€ par mois. Et ça permet d'accéder à pas mal d'œuvres derrière. On y retrouve beaucoup d'auteurs, c'est très varié. Alors moi, je pense à JB, par exemple, qui est un auteur que j'aime bien, qui a participé. Et moi, ce que je voulais surtout saluer, c'était cette tentative de faire de trouver un modèle économique pour du numérique qui aille vraiment dans le sens des auteurs. J'avoue, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup des histoires. J'en ai lu quelques-unes que j'ai trouvées sympathiques. C'est très varié. Ça touche vraiment à beaucoup de genres très différents. Voilà, donc le pavé numérique sur le site lepavénumérique.fr. Isaac, t'as jeté un petit coup d'œil, t'as quelque chose à rajouter ou...
J'ai jeté un petit coup d'œil rapide. Ce qu'on peut regretter, c'est que il y ait peu de planches diffusées en même temps.
Oui.
Donc après, il faudrait voir sur la partie abonnement. Et puis, il faut laisser du temps aussi au projet de se mettre en place, puisque c'est très récent. Mais c'est un très bon projet en devenir et effectivement pour avoir un petit peu discuté de la partie économique avec les auteurs lors du festival de BD des Calanques de Lumini, c'est un vrai sujet de préoccupation pour eux pour vivre au quotidien tout simplement quoi. Donc tout moyen qui passe par le numérique pour le coup, qui permet d'éviter la grosse machine des gros éditeurs, peut être salué et utile, et puis ça donnera des idées peut-être à d'autres plateformes aussi de diffuser.
Sachant que, en plus, l'équipe éditoriale qui bosse dessus, alors il y a des auteurs hein, qui bossent aussi dessus, tout ce qui est le travail de sélection éditoriale, ils le font bénévolement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que les auteurs qui sont payés, ils se gardent un peu de sous pour financer la plateforme, hein, parce que ça a quand même un coût. On peut leur soumettre des projets, ça aussi c'est intéressant pour ceux que ça intéresse, les auteurs en devenir, tous ceux qui veulent se lancer dans ce genre de projet-là. Ça m'a rappelé un petit peu le modèle économique des autres gens, c'est-à-dire que c'est pas très très cher, hein, 3€ par mois, c'est en fin de compte c'est quoi ? C'est une bière quoi, t'offres une bière aux auteurs par mois.
C'est moins qu'un demi-paquet de clopes.
Voilà. Jetez-y un œil, ça vous donne accès donc à des récits en intégralité, à des récits bonus aussi. Il y a un peu de bonus pour les abonnés. J'hésite grandement à m'abonner, je ne l'ai pas encore fait. En tout cas, si je finis par passer le pas, c'est pas gagné parce que j'avoue que financièrement, c'est pas toujours facile.
On ne peut pas s'abonner à tout.
Voilà. Et les autres gens vont se finir, donc peut-être que je vais pouvoir passer mon abonnement là-dessus pour voir ce que ça donne. C'est un projet que moi je trouve intéressant et en général j'aime saluer tout projet numérique. Malheureusement, ce que j'arrive pas à savoir, c'est si on dort du modèle économique qu'il propose, la qualité du contenu. C'est toujours le problématique dès qu'on est sur le numérique. On s'intéresse souvent beaucoup plus au modèle qu'au contenu.
C'est le problème des autres gens. Hein. Thomas Cadden est très content qu'à chaque fois on lui dise « Ah, le modèle économique des autres gens, c'est super fun !» Mais il aimerait bien qu'on lui dise « Oui, mais ma BD, sinon, à part ça, vous en pensez quoi ?» Ce qui est toujours problématique. Et je pense que s'ils sont appelés le pavé numérique, c'est qu'ils ont aussi voulu jouer un peu le pavé dans la mare à ce niveau-là. Une initiative à soutenir, en tout cas. Jetez-y un œil. Ça ne coûte rien d'y jeter un œil.
Allez-y très rapidement, d'autant plus que les dernières publications sont gratuites. Donc, si vous suivez dès le début, ça peut vous mettre le pied à l'étrier pour poursuivre les différentes aventures qui sont proposées. Il y a un certain Supermaneux, MA2NE, qui a l'air assez fun à suivre, en espérant que ça se poursuive pendant un bon petit moment. Ça a l'air bien sympathique.
Eh bien, nous allons pouvoir passer à notre courrier des lecteurs. Oui, oui, le courrier des lecteurs, le truc qui n'a même pas de jingle, tellement à chaque fois j'oublie de le faire.
La fanpage, trop bien.
Alors, le courrier des lecteurs, en gros, l'idée, c'est tout bête, hein, c'est de dire un peu ce que vous nous avez laissé sur Facebook et compagnie, parce que vous nous laissez des commentaires sur Facebook. Alors, c'est toujours sur iTunes, que dis-je. Et les commentaires que vous nous laissez sur iTunes, c'est quelque chose de très, très, très bien pour nous, parce que ça nous permet... de gagner de la visibilité sur la plateforme iTunes, ce qui est une belle récompense, ça ne coûte pas grand-chose à faire. Nous allons saluer donc les derniers, le dernier date quand même du 9 avril, ça date un peu. Ourson Rupert qui nous dit que c'est hyper indispensable, il nous met 5 étoiles sur 5, ce qui est plutôt la classe. Il dit vraiment super agréable, rendez-vous régulier avec vous, merci, et le supplément de rythme est bien sympa, bravo. Alors il a parlé du supplément de rythme avant l'arrivée d'Isaac quand même, donc je ne sais pas ce qu'on a fait. J'en ai aucune idée.
3 cafés au lieu de 2.
On s'est sorti les pieds du cul en fait.
Ouais, c'est ça. Zouzou48 nous dit bien, 5 étoiles avec de la matière, bravo. Moi, j'aime ces commentaires simples, efficaces. Virjou nous dit que c'est un super podcast, moment incontournable sur la BD, je ne peux que conseiller l'écoute. Ah oui, c'est Strich13, quelqu'un qui nous suit pas mal sur Twitter et compagnie. Et on va finir par le commentaire de Awakenings, qui dit « Très bon podcast sur la BD. Un 5 étoiles des familles bien mérité pour cet excellent podcast sur l'univers de la bande dessinée dans toutes ses formes, comique, franco-belge et un peu manga. Une formule bien rythmée, des thèmes variés, une bonne ambiance, des interviews intéressantes, bref, que du bon et encore plus mieux avec la nouvelle formule. À quand un rapprochement avec Freepod pour une meilleure visibilité amplement méritée ?» Alors, Freepod, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les podcasts qu'ils produisent. Maintenant, j'ai plus l'impression qu'ils mettent en commun des moyens... technique, donc sur Paris, et c'est un peu loin pour nous. Ça nous coûterait un peu cher d'aller enregistrer dans la cave du capitaine ou dans les studios B de Bragelonne. En tout cas, merci pour vos commentaires. Nous, ça nous fait toujours plaisir.
On en veut encore plein, surtout s'il y a 5 étoiles.
Ouais, les 5 étoiles. J'aime les 5 étoiles. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à tous.
Merci à ceux qui nous envoient des choses. On a Jeff qui avait gagné le concours, qui a reçu ses 7 kilos de bande dessinée, qui nous envoie un superbe dessin bien sympathique.
Le prochain concours, on envoie votre poids en bande dessinée.
Cela
n'engage que Isaac. Hein.
Voilà. Je suis même pas sûr qu'il soit capable de mettre son poids en bande dessinée avec celle qu'il a chez lui.
Oh si.
Oh si.
Oh, si.
si je les enrobe avec un petit peu de plomb, ça peut marcher.
Allez,
c'est-à-dire que tout le monde n'est pas aussi bien fourni que toi, petit pied.
Je sais. Hey, tu se défend pas mal aussi. Hein. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour un super épisode de La Mort avec encore plein de BD hein, pour changer.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
C'est, c'est le thème du podcast, quoi.
Ouais, ouais, on est trop fort. À dans 15 jours. Ciao.
Bye bye. Ciao.
C'est lui qui jouait dans Police Academy, c'est ça?
C'est ça.